Voilà, je vous propose de commencer donc notre dernière conférence de ce week-end de Pentecôte. Nous avons vu lors de ces différentes rencontres plusieurs aspects de l'Église. Et croyez-moi que nous n'avons de loin pas épuisé la richesse de ce qu'est l'Église. La Bible nous dit que c'est un mystère et il est difficile pour nous de tout s'approprier. Mais nous avons vu que l'Église, dans la première conférence, c'était quelque chose de vital, d'incontournable, d'associé à notre salut. Quelque chose que nous ne pouvions pas dissocier de notre salut. Même si ça n'est pas le moyen, c'en est le fruit. Nous avons aussi vu dimanche matin que l'Église était un contenant et que le contenu était le produit de notre Seigneur Jésus-Christ qui remplissait tout en tous. Et puis, nous avons vu aussi que Dieu, depuis toujours, a à cœur de manifester sa présence au sein de son peuple au travers de cette formule « Je serai ton Dieu, vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous ». Maintenant qu'on a vu toutes ces réalités, j'espère que, sinon j'aurais vraiment passé à côté du but que je me suis fixé devant le Seigneur, c'est que chacun, chacune ici présent ne néglige pas l'Église. Et que l'Église soit quelque chose de central dans la vie de chacun. Mais la question qu'on pourrait encore se poser, qu'on va développer maintenant, comment ça fonctionne, cette mécanique? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de bricoler? Alors, j'ai eu l'occasion, un jour, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un parcours professionnel avant d'être pasteur. Comme disent certains, avant je travaillais, maintenant je ne travaille plus, hein, on sait très bien. Le pasteur, il est invisible 6 jours sur 7 et le 7e, il est incompréhensible. Donc voilà. Mais bon, mettons ça de côté. J'avais une vie professionnelle où il s'avérait que j'avais des dons en ce qui concerne la réparation de véhicules et d'auto dans la mécanique. Et j'ai le souvenir que deux frères, qui étaient eux aussi pasteurs, un jour, l'un d'eux m'a dit « Écoute, j'aurais un cardan à changer de mon véhicule. Est-ce que tu pourrais, avant que tu partes, le changer ?» Je dis « Oui, il n'y a pas de problème. » Sauf que la voiture était là, la pièce de rechange était là, mais les outils n'étaient pas là. Alors j'ai eu droit à tout. Hein. Pour faire levier, j'ai eu droit à des fourchettes, j'ai eu droit à des n'importe quoi. Vous voyez ? Et c'est difficile de travailler dans des conditions comme cela. Et j'ai envie de dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Et dans l'Église, nous avons le devoir de vivre les choses avec les outils que le Seigneur nous a donnés. Et il nous a donné des choses. Le texte que j'aimerais aborder avec vous se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 1 à 12. Je vais vous lire ces versets. Et c'est un chapitre qui parle des dons. Alors ça, les dons, c'est une vaste discussion que je ne vais certainement pas épuiser, mais j'aimerais quand même en définir l'essence. 1 Corinthiens 12, les 12 premiers versets. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment ? Quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà le titre que j'aimerais donner à ce message. L'Église, elle est cruciale et elle est surtout cruciforme. Elle a une forme bien spécifique. Alors, quand on détourne un outil de son objet, ça devient compliqué. Changer un cardan avec des fourchettes, des couteaux et des bouts de bois, ça devient compliqué. Et dans l'Église, vous avez une caisse à outils que le Seigneur nous a donnée. Et nous devons l'utiliser comme le Seigneur l'a décidé et non pas comme nous l'avons décidé. Alors je dirais cette définition qu'on entend souvent pour les hommes politiques. Le détournement des biens publics. Qu'est-ce que c'est le détournement des biens publics ? C'est le détournement des publics est généralement défini comme l'acte illégal qui consiste à utiliser des sommes et ou des biens appartenant à la collectivité, par exemple l'État, à des fins autres que le bien public. Pour les Corinthiens, nous pourrions qualifier leur faute ainsi : détournement des biens de Dieu à usage commun. Détournement des biens de Dieu à usage commun, propre. Ils ont détourné les biens pour le troupeau de Dieu à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient destinés. Quels sont ces biens détournés ? Dieu, dans sa grâce, a distribué et confié toutes sortes de dons aux uns et aux autres. Vous avez des dons, mes frères. Et ces dons sont distribués pour en faire usage dans, par, pour l'Église et pas pour autre chose. Mais au lieu de les utiliser, les Corinthiens, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Au lieu de les utiliser au service de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, ils détournèrent ces dons pour eux-mêmes. D'ailleurs, au début de ce chapitre, vous avez ce verset qui dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels ». J'aimerais faire une petite correction sur cette traduction. Si vous avez une vraie Bible comme la mienne, vous remarquerez que le mot « don » est entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le texte original des manuscrits grecs. Donc, pourquoi je dis cette information ? Parce qu'il me semble qu'on pourrait tourner la traduction dans ce sens, et je vais y mettre une intonation, et vous allez peut-être comprendre. Pour ce qui concerne les spirituels, ceux qui se prennent part pour la queue de la poire, ah, nous, on est des spirituels. Et ça, est-ce que parmi nous, il y en a des comme ça ? Moi, je suis spirituel. Tu vois, tu comprends, moi, je suis spirituel. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans 1 Corinthiens 1, 22-23, il y a ce fameux verset qui dit « Les Juifs demandent comme preuve des miracles et les Grecs recherchent un discours rationnel. En ce qui nous concerne, nous annonçons un Messie cloué sur une croix. » C'est un message scandaleux pour les Juifs et un non-sens pour les non-Juifs. Cette idée existe encore aujourd'hui dans notre société. On attend de l'Église qu'elle prodigue du spectaculaire, du miracle, de la surenchère, de l'événementiel, un peu comme Moïse et les 10 plaies. D'autres cherchent à résoudre le message de la bonne nouvelle de l'Évangile comme une équation mathématique. Forcément, un Dieu qui s'humilie par amour pour une créature telle que l'homme, ça n'a rien de logique et raisonnable. Nietzsche disait, au fond, il n'y a qu'un seul chrétien, il est mort à la croix. Ce qui est triste dans notre société, c'est qu'un seul mensonge fait plus de bruit que 1000 vérités. Un seul mensonge fait plus de bruit que 1000 vérités. Et dans notre contexte, chapitre 12, 13 et 14, une des manifestations à l'origine du désordre était principalement le don des langues. C'est-à-dire cette capacité à parler des langues sans les avoir préalablement appris. C'est quelque chose de formidable, n'est-ce pas ? Moi, je suis nul en anglais. J'ai jamais, pendant mes cours d'anglais, je ne sais pas ce que je faisais, mais je ne faisais pas attention à ce qui était dit. Et j'aurais bien aimé, ben, Seigneur,
donne-moi le don que je puisse lire l'anglais. Il y a des livres théologiques en anglais et je me prive certainement de beaucoup de choses. Vous voyez ? Et puis si j'avais eu ce don, peut-être que je me serais adressé à vous. Hey, moi, je parle anglais comme ça. Chinois, je ne sais pas, égyptien réformé, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, moi je parle tout ça, je l'ai appris en claquant du doigt. Ça le fait. En ce qui concerne les spirituels, ben on peut les mettre... Moi, c'est vrai que humainement parlant, celui qui a eu le don de faire le ménage, celui qui a eu le don de ressusciter des morts, on est impressionné par celui qui a ressuscité des morts. Forcément, il fait le ménage. Et c'est là qu'on se trompe. L'église cruciforme, attention, l'église cruciforme, c'est quelque chose de particulier. Nous ne nous laissons pas tromper par notre regard, par notre manière de voir les choses. D'accord ? Jésus a dit, les prostituées, les gens de mauvaise vie, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Mais nous regardons, nous avons tendance à regarder les choses humainement. Mais il ne faut pas faire cela dans l'église. Sinon, nous détournons les biens que Dieu a donnés à usage personnel. Si j'ai reçu un don et que je mets cela pour me mettre en avant moi-même, je ne suis pas dans une église cruciforme. Je ne vis pas l'église dans la bonne forme. Parce que Dieu m'a donné des dons. Et ces dons, c'est aussi un privilège, mais c'est aussi un devoir, une responsabilité. À celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Et tout est dit. Ne détournons pas, mes amis, ce que Dieu nous donne en vue du bien commun. Par pitié, dans l'église, ne détournons pas ce que Dieu nous offre gratuitement, sans mérite, pour le bien commun, pour le bien des uns et des autres. Le croyant a reçu un patrimoine céleste pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et tout ce chapitre est un appel à vivre et à rechercher l'utilité commune. La solution de Paul n'était pas de séparer les gens ou de dire, les chrétiens spirituels, vous avez votre étude biblique le mardi et les chrétiens moins spirituels, vous, c'est le jeudi. Non, il n'y a pas de cela. Vous avez besoin les uns des autres. Les uns avaient besoin des autres pour mieux comprendre le caractère de Dieu. 1 Pierre 4, 10 et 11, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Tout croyant a reçu un patrimoine de Dieu pour le mettre au service de Dieu. Un chercheur a étudié le fonctionnement des oies sauvages et il a tiré certaines conclusions que je trouve très intéressantes. Il dit alors que chaque oiseau bat des ailes, cela crée un mouvement ascendant pour l'oiseau qui suit. En volant dans une formation en V, le groupe accroît la distance parcourue de 71% par rapport à ce qu'une oie toute seule pourrait faire. Morale. Les gens qui partagent un intérêt commun et un sens de communauté peuvent parvenir là où ils veulent et aller plus rapidement, plus facilement, parce qu'ils s'encouragent en marchant ensemble. Lorsqu'une oie dévie du groupe, elle ressent immédiatement la résistance de l'air et cherche vite à revenir dans le groupe pour utiliser à nouveau le mouvement ascendant de l'oiseau qui est en face. Morale, si nous avions une jugeote aussi développée qu'une oie, nous resterions bien, bel et bien ensemble. Lorsqu'une oie qui est devant est fatiguée, elle laisse la place à une autre qui prend la tête. La morale, il est avantageux de partager les tâches difficiles et de se relayer dans ces tâches pénibles. Les oies qui sont derrière encouragent le leader et celles qui sont devant par des cris et maintiennent leur vitesse. La morale, nous devons nous assurer que les cris qui viennent de derrière ou que nous envoyons devant soient encourageants et pas destructeurs. Lorsqu'une oie tombe malade et blessée ou abattue, deux oies sortent de la formation pour la suivre jusqu'au sol, où elles l'aideront et la protégeront. Elles resteront jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Elles prendront ensuite une autre formation et rejoindront celle qu'elles ont laissée. Morale, si nous avions une jugeote aussi développée qu'une oie, nous resterions les uns auprès des autres dans des temps difficiles comme des temps où nous sommes forts. La nature nous enseigne des choses incroyables, n'est-ce pas? Où est la marque de fabrique de tout ça? N'est-ce pas Dieu, notre Créateur? Et nous voyons dans la création toutes sortes de choses. Nous avons un patrimoine que nous avons reçu du ciel. Et nous voyons la marque de fabrique. La deuxième affirmation que j'aimerais vous donner, c'est que la diversité en harmonie est pleinement à l'image de Dieu. Regardez ce verset de 1 Corinthiens 12 qui dit « Il y a diversité de dons ». Mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Est-il possible d'avoir une harmonie avec autant de particularités? Corinthe, en tant que ville portuaire, était une ville cosmopolite. Il y avait toutes sortes de personnes, de nations différentes, de cultures différentes, d'arrière-plans différents, d'influences païennes différentes. On pourrait même penser que toute cette diversité ne fera que compromettre l'harmonie du groupe. Le même Dieu qui amplifie cette diversité opère tout en tous. Dans Actes 4, verset 32, il nous est dit: tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Quelle unité incroyable! Paul rappelle que Dieu est illimité et infini, Dieu qui opère tout en tous. Lorsque nous regardons la création, nous voyons la marque de fabrique de Dieu et qui devrait inspirer l'Église. Regardez l'univers. D'ailleurs, le mot « univers », qu'est-ce qu'on entend dans « univers » ? On entend « uni » et « divers ». Univers. L'université. Quelle est l'idée qu'il y a dans le mot « université » ? C'est dans « on » unifie toutes sortes de sciences, d'accord, diverses et variées, mais dans un tronc commun. L'Église, c'est une diversité dans l'unité. Ça, c'est une Église cruciforme, telle que Dieu le veut. Nous ne voulons pas d'une Église monotone. C'est vrai, parfois, on aimerait bien composer avec une Église figée, monotone, qui ne bouge pas. On garde nos cantiques toute notre vie. On bouge pas les choses de leur place. Vous savez, j'ai eu le malheur un jour lors d'une visite, enfin le malheur, en visitant une dame qui avait un piano à queue, elle a dit « je vais déménager ». Et en plaisantant, j'ai dit « bah ça va être costaud pour le piano à queue là ». Elle a dit « ah bah oui, je sais, d'ailleurs, ça vous intéresserait pas à l'église ?» Et moi, innocemment, j'ai dit, ben, vous le vendez ou... Elle dit, non, je vous le donne. Si vous me le débarrassez, je vous le donne. Alors moi, je me suis dit, ah ben, on ne peut pas refuser un piano à queue. Qu'est-ce que j'ai pas dit ce jour-là? Quand je suis arrivé à l'église, moi, tout joyeux, j'ai dit, vous savez quoi? On va avoir un piano à queue. Personne n'a souri, personne ne s'est réjoui. Pourquoi? Je dis, mais c'est quoi le problème? Mais déjà, t'as vu, pour transporter le piano à queue, on va être combien? Ah, mais bon, si c'est que ça. Et puis, figurez-vous quand le piano à queue est arrivé dans l'église. On le met à droite, mais il prend beaucoup de place. Ah non, 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 à droite, ça va pas. On le met à gauche. À gauche, il y a celui qui a la sono qui dit, ah, mais moi, ça me remplit les oreilles, ce truc, je sors dans ma boîte. Il était à droite, il était à gauche, il était au milieu. Et je me souviens un jour d'avoir dit au conseil, je dis, par pitié, je vous demande pardon. Vous le mettez à droite, vous le mettez en gauche, vous le mettez en haut, vous le mettez en bas, mais vous en faites un barbecue avec, mais on ne le bouge plus, s'il vous plaît. Parce que les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? On est au conseil, là, ce piano, il est partout, là. Parce qu'on accepte, oui, on est routinier. Je suis sûr que vous vous asseyez à la même place chaque dimanche.
Non.
Non, non. Oh. Seigneur, c'est toi qui les connais, hein. Voilà. Moi, je dis rien, mais... Voilà. Et moi, je vois les sœurs qui ont leurs coussins. Il y a même des sœurs que elles mettent deux chaises empilées les unes sur les autres parce que je sais pas trop quoi. Chacun ses petites habitudes. Ah non, mais parce que moi mon cou, il voit mieux que dans un sens. Moi, c'est le micro. Moi, c'est ce... Et chacun a nos petites routines. Et dès qu'on touche à ça... Si on avait touché les fondements de l'évangile, ça aurait été pareil. On est prêt à déclencher la troisième guerre mondiale, s'il le faut. Mais bon, je veux bien. Si je me trompe, c'est qu'à Toulon que ça existe, ces choses. Très bien. Je veux bien. Je veux bien vous croire, mais le Seigneur vous voit, hein, il connaît vos cœurs. Hein. Moi, j'ai pu constater... que la diversité, la Bible présente cela comme un atout, et moi je constate au quotidien que c'est souvent un désavantage. Alors, où est le problème? Où est le problème? Vous voyez? Et c'est là où on a besoin de réaliser que Dieu nous a donné des dons qui se conjuguent les uns avec les autres, cette complémentarité. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Dans votre vie au quotidien, lorsque votre voiture tombe en panne, vous allez voir qui? Le... Qui ça? Le mari, d'accord. S'il s'y connaît, c'est bien. Mais sinon, vous allez voir un garagiste. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Si vous êtes malade, vous allez voir qui? Médecin. Et puis, si le médecin vous dit, il y a un spécialiste là, si vous avez tel problème, un problème de cœur, lui, c'est le spécialiste, c'est le meilleur. Vous allez chercher à aller voir le meilleur, d'accord. Mais pourquoi, dans l'Église, on ne fonctionne pas comme ça? Pourquoi n'allons pas nous voir tout simplement le frère ou la sœur qui maîtrise le sujet que je ne maîtrise pas? Pourquoi est-il si honteux pour nous de reconnaître que ce domaine, je ne le maîtrise pas? Je ne suis pas un musicien. Je ne maîtrise pas la musique. Je ne vais quand même pas me mettre... à dicter des choses aux musiciens. Des fois, en plaisantant, quand je passe, je dis, vous avez oublié un si bémol, là. Mais, voilà, chacun a sa place. Celle qui est responsable de l'école du dimanche, vous savez ce verset qui dit, soumettez-vous les uns les autres. Je me soumets, je l'écoute, je dis, dis-moi, c'est... mais tu comprends, parce que là, c'est de tel âge à tel âge, il faut faire un groupe. De tel âge à tel âge, je vais faire un autre groupe. Et déjà, quand elle a dit la deuxième phrase, elle m'a déjà gonflé parce que moi, ça déjà, je ne comprends rien de ce qu'elle me raconte. Je dis, écoute, que Dieu te bénisse. Hein. Fais comme tu fais les groupes que tu veux et annonce l'évangile parce que moi, ce n'est pas mon truc. Et c'est ça, l'Église. Et d'accepter que les uns et les autres, dans notre diversité, que nous puissions apprendre à être cruciformes. La difficulté majeure pour nous, pour l'Église primitive, entre autres, c'était d'avoir des juifs et des non-juifs. Ils avaient du mal, parce que les juifs, ils avaient toute une culture, déjà, qui était biblique, là où les autres n'avaient pas de culture biblique, ne serait-ce que sur le manger. Et ils ont dû se mettre d'accord. Mais n'oublions pas que nous sommes tous différents. Et le Seigneur a voulu que son Église soit diverse et variée, mais... unis en lui. Autre chose que j'aimerais dire, l'Église cruciforme, c'est une Église qui manifeste sa puissance dans l'unité en Christ. Le corps humain forme un tout et pourtant il y a beaucoup d'organes et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis en Christ. La diversité parmi les hommes, je le redis, elle a tendance à nous séparer. Toutefois, il y a diversité et diversité. Et nous devons apprendre à lire et à ne pas donner la même importance à toutes les diversités. Et il y a des différences qui méritent que nous soyons plus posés. Et il y a des différences qui supposent que nous soyons intransigeants. Romains 14, versets 7 et 9, il nous est dit « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Notre vie ne nous appartient plus. Notre vie durant pour notre Seigneur, nous voulons vivre. Au dernier moment pour notre Seigneur, nous voulons mourir. Dans la vie ou dans la mort, entre les mains de notre Seigneur, nous demeurons. Toutes les choses que nous voulons faire, nous voulons les faire pour le Seigneur. Et des fois, il faut reconnaître qu'il faut supporter des différences. Ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ma manière de faire, mais je supporte aussi. Pour ceux qui n'acceptent pas l'Évangile, la seule manière de vivre, c'est pour soi-même. L'Évangile, c'est d'accepter, de supporter les autres. Mais ceux qui ne veulent pas de l'Évangile, ils ont un individualisme. Ils ne supportent pas la différence. Ils veulent que tout soit comme eux, on pense comme eux, dans l'intégralité. La puissance de l'unité se trouve dans ce qui m'unit au Christ. Et la diversité ne doit jamais compromettre cette union. Alors je vous propose d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Quand on regarde les différences qu'il y a entre nous, qu'on puisse avoir plusieurs niveaux de lecture et par rapport à ces niveaux de lecture, qu'on puisse être, j'ai envie de dire, équilibré dans nos propos. Il y a des choses qu'il faut absolument croire. Il n'y a pas de diversité dans cela. Pour aller au ciel, Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est ressuscité, il est le seul qui peut me sauver. Et quand la Bible parle de diversité, ce ne sont pas des oppositions. Paul était très clair, tranchant sur ce sujet. Il n'y a pas de diversité d'évangile. Il n'y a pas de diversité de chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas de diversité de salut quant à l'inspiration de la Bible. Donc il y a des choses qu'il faut absolument croire. Peut-être que tu ne les comprends pas. Peut-être que tu ne comprends pas la Trinité, mais tu ne peux pas la nier. Tu ne peux pas. Peut-être que tu ne comprends pas la double nature de Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas le nier. Dans un deuxième niveau, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas nier. Il y a des choses qu'il faut absolument croire, il y a des choses qu'il ne faut absolument pas nier. C'est ce que je viens de dire, la Trinité, la double nature du Christ. Ensuite, il y a un troisième niveau. Il y a des choses que vous devriez croire. Les hommes sont créés à l'image de Dieu. L'Église est le corps du Christ. Le baptême par immersion du croyant. On ne naît pas chrétien, on le devient. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la vie? C'est comme quand on construit une maison. Quand on construit une maison, on commence par y déposer les fondations. Et ces fondations, il n'y a pas à y toucher. C'est les fondations. C'est l'équivalent des deux premiers points que je viens d'évoquer. Il y a des choses qu'il faut absolument croire et des choses qu'on n'a pas le droit de nier. C'est le fondement. Après, une fois qu'on a fait les fondations, qu'on a mis les murs, il y a l'agencement des pièces. Je mettrai à ce niveau-là tout ce qui est d'ordre doctrinal dans le sens de croyances ou pas. Sur les dons comme le parler en langue, sur le baptême, sur la fin des temps, ces choses-là sont importantes. Ce n'est pas ça qui va faire de nous des enfants de Dieu, mais elles sont importantes. Vous imaginez une maison mal conçue, mal organisée. Supposons que pour aller à la cuisine, il faille passer par les toilettes. C'est compliqué. Et plus vous connaîtrez la Bible dans ce qu'elle est juste et vous vivrez les choses telles que la Bible le dit à ce niveau-là, plus votre maison et votre vie sera bien organisée et vous en serez béni. Ensuite, il y a un niveau qui est d'ordre vraiment secondaire. Dans notre église à Toulon, lorsqu'on sert la scène, on a un plateau avec des petits gobelets et au milieu, on a une coupe. Ça n'existe nulle part, je crois, parce qu'on l'a fabriqué nous-mêmes, le truc. On devrait mettre un brevet. Mais, parce qu'il y a certains qui disent, ah non, 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 moi je prends que la coupe. D'autres qui ont dit, ah non, mais il y a 200 personnes qui prennent à la coupe, moi j'ai pas envie d'attraper, je sais pas quoi, hein. Il y a 200 personnes qui ont la grippe ensuite, ou que sais-je. Alors, allez, on a trouvé un compromis, on va pas se disputer pour ça. Mais figurez-vous que j'ai un jour une sœur en Christ qui est venue me voir, qui m'a dit, Luciano, tu sais que moi je prends du pain sans gluten. Hein. J'ai dit, oui, et alors ? Non, mais là, le pain que vous prenez, il y a du gluten. Ah. J'ai dit, écoute, on va pas... Tu prends le pain, là, tu vas pas... Ah non, non, mais j'insiste, je tiens à ce que tu demandes au conseil qu'ils réfléchissent à mettre dans le plateau un coin avec sans gluten. Alors, mes amis, on va pas se fâcher pour ça, on est bien d'accord. Mais... je me suis engagé à dire ça à notre conseil, donc je lui ai dit, écoutez, il y a une sœur en crise qui est assise, ceci. Alors, au conseil, dit, non mais on a vraiment des choses sérieuses à faire. J'ai dit, écoutez, elle attend une réponse, il faut quand même qu'on lui dise quelque chose. Alors, bon, c'est sûr que ça devient compliqué, si on met dans une petite assiette, vous avez un rayon sans gluten, un rayon sans sel, un rayon sans levain, un rayon avec levain, ça devient compliqué, vous comprenez. Par pitié, est-ce qu'on va se diviser pour ce genre de choses? Alors, mais... Ceci dit, cette sœur mérite qu'on lui manifeste quand même de l'amour, n'est-ce pas? Moi, si ça tenait qu'à moi, tel que je suis dans ma nature, j'aurais dit très simplement, écoute, tu vas pas commencer à me casser les pieds avec ton gluten là, mais le Seigneur a sanctifié un petit peu quelque chose dans ma vie, et je lui dis, écoute... le conseil a réfléchi, a pris le temps, et nous t'encourageons à venir. Tu prends toi-même un bout d'aluminium où tu mets ton pain sans gluten, et quand il y a la scène qui passe, tu ne prends pas dans l'assiette, tu prends ce que toi tu as et tu le manges. Voilà. Mais est-ce qu'on va se disputer et se diviser pour ces sujets-là? Vous comprenez? Ce que je veux vous expliquer, c'est que l'église cruciforme est une église intelligente. Ce n'est pas une église qui ne sait pas apporter des nuances. La diversité, nous l'acceptons lorsqu'elle nous fait grandir en Christ, non pas quand elle nous divise. Nous avons un patrimoine céleste que Dieu nous a donné. Nous avons reçu une diversité dans l'unité. Nous avons le devoir de marcher d'un même pas, d'un même cœur et d'une même pensée. Alors lorsque les Corinthiens commencent à dire « Mais moi j'ai le parler en langue, moi j'ai la guérison, moi j'ai le ministère de Dieu m'a parlé, les dieumadistes, vous savez ?» Il est évident que quand Dieu leur parle, nous avec notre Bible, on a l'air ringard. Parce que lui, il a une connexion directe au débit avec le Seigneur, alors que nous, on doit prier, ça fait un peu, on est au Moyen-Âge. Par pitié, Dieu veut que nos dons soient au service des autres. Et certainement pas pour nous élever. Tu vois, moi, Dieu me parle. Et j'ai souvenir, dans mon église de naissance, où je vous assure, elle n'était pas de tendance charismatique, une église classique, il y avait un frère qui avait pour habitude de dire « Non, mais cette semaine, Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit... » Et moi, j'étais un jeune converti, je dis « Waouh, mais moi, Dieu, il me dit rien. Moi, Dieu, il me dit rien. » Je dis « C'est pas possible. » Moi, pour moi, ce frère, c'était un superman évangélique, je veux dire. Et c'est pas juste. Dieu parle à chacun d'entre vous au travers de sa parole. Et dans l'Église, bien sûr que le Seigneur peut parler par des circonstances, mais l'autorité suprême, elle est dans la parole de Dieu. Pour ventiler les choses d'une manière théologique, je dirais qu'il y a les prophéties d'ordre ecclésial et il y a les prophéties d'ordre canonique. Les prophéties canoniques, celles qui sont infaillible, c'est la Bible. Les prophéties ecclésiales, bon, peut-être, mais on reste très, 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 très prudent. Et peut-être qu'un frère va m'exhorter, que le Seigneur a permis qu'il m'exhorte, ou peut-être que ce frère me sanctifie aussi. Et ça sert à ma sanctification. Quand un frère vous agace, c'est un don de Dieu. Parce qu'il participe à votre sanctification, mes amis. Je me souviens d'une sœur qui nous avait invités avec mon épouse et qui a dit, nous avons, tu sais Luciano, l'ancien de l'église ne m'a jamais invité. Jamais. Alors je lui ai dit, bon, je ne sais pas quoi dire, hein. Mais je lui ai juste dit, mais toi, tu l'as invité une fois ou... Elle a dit, ah non, 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 je ne l'ai jamais invité non plus. Donc, en résumé, l'ancien a reçu le don de l'hospitalité qu'il n'a pas pratiqué, et toi, tu as reçu le don d'être invité. C'est ça ? Et comment ? Et c'est là où la parole de Dieu prend toute autorité. Faites-vous mutuellement, bon accueil. Alors, je ne sais pas si Tony, il a invité tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez l'inviter, il est OK, je pense. Hein. N'hésitez pas. Hein. Il part bientôt, donc il ne faut pas hésiter. C'est ça, l'Église. On n'est pas en train d'attendre que l'autre nous donne. Nous sommes de ceux qui donnent. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et chaque fois qu'on donne, souvenez-vous ce que j'ai dit hier, au nom de Jésus, tout ce que tu feras au nom de Jésus, et même si un frère ou une sœur te disent un mot qui est dur, tu pourrais être vexé, tu pourrais être susceptible, mais est-ce que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a permis aussi ? Je racontais avant à Sophie, je disais, une sœur un jour s'est approchée de moi en me disant, Luciano, tu le prends pas mal, hein. Je voudrais te dire quelque chose. Alors quand ça commence comme ça, vous commencez déjà à prier dans votre cœur et vous dites, Seigneur, là j'ai besoin de tout, hein. Tu envoies tout ce que tu peux. Tu le prends pas mal. Non, vas-y. Ah, écoute, voilà, je vais te dire, franchement, tes messages, c'est nul. Je vous assure, quand vous êtes jeune pasteur et que vous prenez une exhortation de la sorte, ça vous sanctifie. Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Parce que je crois que absolument tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avions une jeune femme dans l'église qui a perdu son mari. Le jour des obsèques, une vingtaine d'années, elle est montée en haut de la chaire et elle a dit, Dieu l'a permis. Mon mari est mieux là où il est. Quand vous entendez ça, ça vous reprend dans votre cœur. Dieu l'a permis. Seigneur, je veux croire en toutes circonstances que tu es mon Dieu. Il n'y a pas un cheveu de ma tête qui ne soit compté. L'Église cruciforme, c'est croire que Dieu est au-delà de toutes les circonstances. Et que vous puissiez, mes amis, donner la place à l'Église, vivre l'Église et être vous-même un acteur dans l'Église. Je terminerai par cette déclaration. Dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de place pour les vieux. Il n'y a pas de place pour les jeunes. Il n'y a de place que pour des serviteurs. Amen. Amen.